Bonsoir. Pour la tribune de la presse de ce soir, nous avons choisi trois sujets. L'adoption cette semaine du budget 2007 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ceci après l'harmonisation de ce qui opposait les deux chambres du Parlement. Harmonisation faite par la commission paritaire mixte Sénat-Assemblée nationale. Budget évalué à plus ou moins 2 milliards 400 millions de dollars américains. La haute commissaire des Nations Unies chargée des droits de l'homme, Mme Liz Harbour, est montée au créneau cette semaine. Elle a dénoncé l'acquittement accordé à tous les accusés du procès pour le massacre des Kilwa au Katanga en octobre 2004. Étaient accusés des éléments de la 62e brigade FARDP qui était dirigée par le colonel Inunga Ademar. Cette semaine, les travailleurs des magasins appartenant à des expatriés ici à Kinshasa ont marché et réclamé l'application par leurs employeurs de la décision du ministre du Travail sur leur temps de travail. Trois confrères que nous recevons pour la première fois ont répondu présents à notre invitation. Sosten Pierre Kambiji, directeur des informations de Radio Zénith à Chikapa au Kasaï Occidental, il intervient au téléphone. Emmanuel Makila, rédacteur en chef du journal Le Révélateur ici à Kinshasa. Et Adrien Vanda, journaliste de la radio-télé Groupe Avenir ici aussi à Kinshasa. Le budget 2007 a enfin été adopté par les deux chambres du Parlement. Il est évalué à plus ou moins 2 milliards 400 millions de dollars américains. Pour rappel, après son examen, le Sénat l'avait réduit de 100 millions de dollars, soit 2 milliards 300 millions de dollars américains au lieu de 2 milliards 400 millions de dollars comme initialement voté à la chambre basse du Parlement. Leur divergence concernait un montant de 50 millions de dollars qu'une société de télécommunications devra en principe payer au ministère des Postes et télécommunications. Le Sénat a émis des réticences sur le maintien de cette recette dans le budget 2007, tandis que l'Assemblée nationale voulait qu'on maintienne cette recette dans ce budget. C'est donc finalement le budget tel que voté par l'Assemblée nationale qui sera maintenu. Je me tourne d'abord vers Adrien Vanda. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télé Groupe L'Avenir. D'abord, votre commentaire par rapport à ce budget qui a finalement été voté par les deux chambres du Parlement.
Bon, ce que je pourrais dire à propos de ce budget, c'est que c'est le premier budget donc de ce gouvernement, ce premier gouvernement de la Troisième République. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, mais il faudra dire que ce budget, ce gouvernement donc devra se battre pour pouvoir non seulement réaliser les recettes, mais en plus devra faire en sorte que ça soit exécuté avec une très bonne gouvernance. Donc c'est plusieurs défis à la fois pour ce gouvernement. C'est vrai qu'on est en train de dire que ce montant de 2 milliards par rapport à ce qui attend comme travail le gouvernement, c'est peu, mais il faut aussi dire qu'il faut aller commencer quelque part, hein. Et que le mérite de ce gouvernement, c'est d'avoir osé commencer, même si c'est vrai, au cours donc de ce premier exercice, on ne pourra pas contenter tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, voilà.
Nous avons également dans ce studio notre confrère Emmanuel Makila. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Le Révélateur, qui est publié ici à Kinshasa. Votre analyse aussi par rapport à ce budget, puisque en principe, le gouvernement devra déposer au mois de septembre le projet de budget 2008. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce que je vais dire d'entrée de jeu, c'est que beaucoup de gens ont cru que le gouvernement n'avait pas vraiment beaucoup pioché dans la recherche pour trouver des recettes, pour donner un certain volume au budget. Mais il y a aussi le fait que ce budget sera, au regard des observateurs, c'est qui ne va pas favoriser l'émergence d'une classe moyenne, étant donné que les salaires seront toujours, au niveau de la fonction publique, seront toujours minimisés jusqu'à un certain moment. Nous allons prendre le cas des deux pays voisins, du Congo-Brazzaville et de l'Angola, qui travaillent ou qui extraient leur pétrole dans le même bassin pétrolier que nous. mais eux, ils ont beaucoup de recettes, alors que nous, on n'a pas de recettes. C'est dire que le gouvernement n'a pas vraiment pioché dans un certain domaine, par exemple dans le domaine du pétrole. Je pense que, comme ce n'est qu'au début, ce n'est qu'un début, et que le gouvernement cherche à voir clair sur ce domaine, je pense que dans l'avenir, on pourra trouver. Et j'ai rencontré un syndicaliste, que je ne cite pas ici, qui a dit que notre pays est capable de donner au moins, dans les années à venir, un budget, dans les 5 années à venir, un budget de 10 milliards de dollars.
Mais nous sortons d'une longue période de guerre, est-ce que cela ne complique pas un peu la tâche également du gouvernement actuel?
Non, pour l'instant, beaucoup de postes budgétaires ont été cachés par les gouvernements précédents. C'est sûr que avec l'esprit d'ouverture, on pourra les retrouver.
Nous avons également en ligne depuis Chicapa notre confrère Sosten Pia Tambidji. Vous intervenez donc au téléphone. Est-ce que vous partagez le même point de vue que nos confrères ici dans ce studio?
Bien sûr, point de vue, comme je ne suis pas tellement, je peux te dire des choses différentes de ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Le débat qui a suivi l'adoption de ce budget au niveau du Sénat démontre à quel niveau nos institutions se trouvent un peu dans l'incapacité d'encadrer les recettes. Lorsque les sénateurs, les grands sénateurs émettent des réserves sur un montant d'ailleurs 50 millions de dollars et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on savait qu'on devait trouver cet argent, je me dis que finalement, ceux qui encadrent les recettes ou ceux qui doivent les canaliser, ils vont avec beaucoup de tâtonnements. Ça, c'est la première impression. Deuxième impression, le débat qui a été au niveau du Sénat, moi, je pense qu'il était inutile, à la mesure où, par magie de ce qu'on pourrait encore appeler composante unique, on avait finalement voté le budget. Et ce qui est arrivé, lorsque j'ai appris que le Sénat avait revu le budget avec une faiblesse de 100 millions de dollars, moi je m'étais dit que c'était juste un temps pour permettre aux sénateurs de dépasser le micro, prendre parole à la de la tribune, et que finalement ils avaient voté le budget tel qu'il était présenté au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui est arrivé. Donc, moi, ma crainte,
mais c'est la Constitution qui dit que c'est la décision de la Chambre basse du Parlement qui prévaut sur celle de la Chambre du Parlement.
Je le savais que c'est moi, je savais que même si les sénateurs peuvent revoir le budget, même à 100 millions de dollars, finalement, lorsque le projet va retourner à l'Assemblée nationale, on aura la préférence et que ça devait passer. Je le savais pertinemment bien, je n'ai pas le rôle que les sénateurs devaient jouer. Mais là, non, les sénateurs vont démontrer qu'il y a un problème qui se pose dans l'encadrement des recettes. Voilà ce qu'il y a. Et imaginez-vous qu'il y a une épée dans la caisse qui tend sur le gouvernement, on parle d'un remaniement éventuel. Si jamais les ministres qui ont pensé piocher, comme le conseil l'a dit tout à l'heure, remanier l'a dit, quelque part pour avoir un peu d'argent et compléter l'assiette budgétaire, si ce ministre est tombé, celui qui va arriver, comment se fera-t-il pour piocher? C'est toutes ces questions qui sont toujours du coup qui nous laissent de l'anglais à un certain.
Voilà. Ici Adrien Vanda ne pas être tout à fait d'accord avec vous, peut-être Adrien de la RTGS.
Oui, je voulais dire que bon, le Sénat, que c'était un débat inutile au niveau du Sénat, non, je crois que non, même si c'est vrai, la Constitution prévoit que c'est la décision, non plutôt la position de l'Assemblée nationale qui prime par rapport à celui du Sénat, mais la lecture est par le Sénat constitue quand même une sonnette d'alarme, ce qui va faire en sorte que pour l'encadrement des recettes, les gens vont faire un peu plus attention, pas seulement pour l'actuel budget, mais pour le budget, le projet de budget qui 2008 qui sera déposé au mois de septembre. Moi, je crois que ça a quand même été assez important qu'on puisse passer par là, parce que quatre perdus, c'est mieux que deux. Et là, on va faire un peu plus attention. Donc voilà ce que je ma réaction. Donc,
mais est-ce qu'on peut dire que les sénateurs sont un peu plus réalistes que les honorables députés? Est-ce qu'ils sont un peu plus réservés, réticents, tout ça font tout?
Bon, disons que les sénateurs, si vous regardez à la commission écopine du Sénat, ce sont des gens qui sont rompus à la matière, donc des gens qui ont eu pendant des années à pouvoir suivre les hurricanes de nos finances, donc ils s'y connaissent. C'est là où vous dire, et quand ils émettent de réserve, ils savent de quoi ils parlent. Enfin, je ne veux pas dire que du côté de l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'expérience, mais je crois que bon, le Sénat constitue un peu le garde-fou par rapport au travail qui a été fait à l'Assemblée nationale.
Emmanuel Makila, je me tourne vers vous. Vous êtes rédacteur en chef du journal Le Révélateur. Est-ce que vous pensez que ce budget a de l'ambition, comme on a entendu dire au Parlement? Certains disaient que le budget n'avait pas d'ambition.
Je soutiens cette position. Il n'y a pas d'ambition. C'est un budget qui a été fait. C'est comme une comment je peux dire, une difficulté qui se trouvait devant le gouvernement qui devrait faire ce budget sans avoir une navigation beaucoup plus lointaine. C'était presque une navigation à vue. C'est comme on a critiqué le programme du gouvernement. On a dit que c'était un programme extrapolé sur le DCRP. C'était dans cette même situation que le gouvernement devrait courir vite pour proposer quelque chose. Et c'est dans ce sens, mais vraiment, il y a eu une paresse de la part du gouvernement pour faire ce budget, présenter ce budget.
Mais il y a quand même une nouveauté dans ce budget. Ce budget tient compte de la bourse des étudiants. Donc, c'est fait que tous les étudiants finalistes de graduat et de licence des établissements publics de la RDC vont désormais percevoir une bourse d'études. Le montant est de $30 par mois pour chacun, et ce, à partir de la fin de ce mois de juillet. C'est le ministre du Budget qui l'a annoncé. Adolphe Mouzito parle de l'enveloppe globale de cette bourse et des moyens de son acquisition. Il est joint au téléphone par notre consoeur Justine Moussaou-Pondé.
C'est une décision du gouvernement sur instruction du président de la République. Comme vous le savez, par le passé, le président de la République a initié l'octroi des bourses. Cette volonté qui n'était pas possible à matérialiser dans le contexte de l'ancien pouvoir, c'est dans ce cadre que nous avons prévu au budget 2007 la bourse d'études. Et l'enveloppe globale se situe autour de 6 milliards de francs congolais et ça couvre la période de juillet à décembre dans le cadre du budget 2007. Les responsables des établissements devront nous écrire pour nous transmettre de ce mois de juillet. En principe, nous devrions déjà débloquer l'argent. Ça va être beaucoup plus facile pour ceux de l'université de Kinshasa et des autres établissements, autres universités de la ville de Kinshasa. Mais pour l'intérieur, l'argent sera disponible, mais nous attendons les listes. Et à partir des statistiques, déjà, nous pourrons commencer à travailler. Pour mieux formaliser, faire les choses dans les normes, nous attendons les listes vers la fin du mois de juillet. Les étudiants qui sont éligibles à cette devront déjà avoir leur bourse du mois.
Sosten Pierre Kambidji, vous intervenez au téléphone à partir de Tchikapa au Kassai Occidental. Comment à Tchikapa on interprète cette nouveauté que les étudiants n'avaient plus reçu des bourses? Ça fait plus de 10 ans, je crois que c'est le gouvernement Kengo qui avait supprimé cette bourse suite au programme avec les institutions financières de Bretton Woods. Comment on perçoit cette nouveauté?
Bon, quand je veux dire que déjà dans la journée, j'ai eu à rencontrer les étudiants par-ci par-là, on salue d'emblée l'annonce faite par le gouvernement de réserver une bourse aux étudiants. C'est bien beau, mais le doute monte. On dit alors qu'on va donner la possibilité aux directeurs généraux de différents lycées supérieurs de conseil de vie, quand on fait le scandale de l'Union dans l'armée, on se dit que finalement cet argent pourra-t-il être perçu par les véritables étudiants. Et finalement, là où on a 100 étudiants, je ne vais pas mettre une liste de 300 étudiants, je ne peux permettre d'ingérer leur comité de gestion de remplir les postes.
Mais j'ai suivi un communiqué de la primature qui disait que le recteur ou le directeur général des instituts supérieurs qui osera ajouter des listes pour se faire un peu plus d'argent, non seulement il sera licencié, mais il sera poursuivi en justice.
Oui, c'est ça peut être une intention. Reste à savoir si le communiqué de la primature sortira les effets escomptés. Les cas de malversation et de tournement dans notre pays sont les gens, on ne saura pas.
Ok, on vous a compris.
Oui, justement, moi je le dis, déjà au niveau de Chicapa, qui représente $30 à la fête du monde lorsque l'étudiant peut se retrouver avec un loyer qui se lèverait à $100 américains.
Mais n'est-ce pas quand même quelque chose au lieu de rien? Parce qu'ils vont toucher, d'après les informations que j'ai, ils vont toucher du coup leur bourse pour 6 mois, c'est-à-dire 180 dollars américains, ce que c'est n'est rien.
Mais comme ça, 180 dollars pour 6 mois, lorsque vous êtes étudiant, vous êtes débarqué dans les débuts de pension, à la fin de la journée, vous êtes retrouvé avec 20 dollars, vous êtes aussi pour vos propres gestions. Okay. Là, je crois que le gouvernement serait mieux capable de trouver des solutions plus pratiques. Alors, je vais une présentation en faveur des étudiants en disant, vous avez votre bourse là pour toute l'année, ça représente autant d'argent. En tout cas, prenant le cas, vous n'avez pas de méthode, nous construisons ça en préparation de votre bourse. Vous avez fait pour votre bourse de l'année pour 6 mois. Qu'est-ce que ça va représenter?
Ok, merci beaucoup. Adrien Banda, vous êtes journaliste de la radio-télé Groupe L'Avenir. Il s'agit de ça. Est-ce que vous partagez le même point de vue que Sosten?
Bon, là, je vois que notre ami Sosten émet beaucoup de réserves, hein, non seulement sur la constitution de liste, mais sur l'utilisation de cet argent et ce que ça représente. Bon, écoute, ce que je dirais, c'est qu'on ne paie rien à commencer quelque part. Parce que, disons que, au bénéfice du doute, tout le monde est en train de parler bonne gouvernance, donc ce n'est pas seulement les ministres, les PDG ou quoi, mais aussi les responsables des institutions académiques. Donc ils doivent bien montrer que, bon, l'alma mater aujourd'hui a changé et que, bon, l'heure n'est pas à la tricherie. Donc cela voudrait dire que quand ils vont envoyer des listes ici, et que ce soit vraiment des listes que tout le monde peut vérifier, que ça soit fait dans la transparence. Ça, c'est une chose. Les deux. Bon, c'est vrai, modicité de cette bourse, mais commençons quelque part. Si on ne commence pas, comment voulez-vous que demain, on puisse savoir que les vrais besoins, c'est 50, c'est 60 et tout. Commençons quelque part. Parce que je crois quand même on a besoin de cet argent, mais c'est vrai, par rapport au niveau de vie, Tchikapa, c'est pas la même chose que Kinshasa et ainsi de suite. Mais je crois quand même que ça peut aider quelque part, voilà.
Et je me tourne aussi vers Emmanuel Makila, vous êtes rédacteur en chef du journal Révélateur, c'est quand même quelque chose ou c'est rien, il ne fallait pas prendre cette mesure, mais chercher plutôt d'autres solutions comme le suggère notre ami, notre confrère Sosten Pierre Tambinji de Tchikapa.
En fait, pour moi, je salue d'abord la décision. C'est une bonne décision. Il fallait déjà commencer à penser à offrir des bourses aux étudiants. Et maintenant, on dit aux finalistes, et je crois que plus tard, on va élargir le cercle, ça peut aller jusqu'à l'ensemble de tous les étudiants de nos universités et instituts supérieurs. Mais le problème du montant, c'est lié au volume du budget. Le budget est vraiment modique. Et je pense qu'avec le temps, lorsque le gouvernement aura découvert beaucoup d'autres ou élargi l'assiette budgétaire, on aura la possibilité d'augmenter cette bourse. D'abord, le premier pas, c'est de reconnaître qu'il y a des étudiants qui doivent mériter une bourse. Et après, on va voir. Bon, le problème de la transparence, par exemple, c'est tout le monde maintenant commence à parler de la bonne gouvernance. Ça, c'est, il ne faut pas commencer à voir les autorités, il faut commencer par soi. Et puis, il y a des palmarès. On ne monte pas, on n'arrive pas finaliste d'un graduat ou d'une licence sans passer par quelques autres niveaux. Il y a des palmarès qui sont là, qui sont établis. On va, à partir de ces palmarès, découvrir qu'ici, il y a des posters.
Voilà, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce budget, surtout ce deuxième volet que nous avons soulevé sur la bourse des étudiants. Ça fera l'objet d'une émission Dialogue entre Congolais, d'ailleurs la semaine prochaine avec les étudiants eux-mêmes. Nous passons à notre deuxième sujet. Madame Louise Arbour, haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, se dit inquiète quant aux conclusions auxquelles la Cour militaire est parvenue au sujet du procès pour le massacre des Kilwa dans la province du Katanga. Elle condamne le fait qu'une instance militaire ait été utilisée pour juger des civils, mais surtout l'acquittement de tous les accusés, tant civils que militaires, dans ce procès. Elle a dit à travers un communiqué publié cette semaine par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, notre confrère Daniel Tambinzoni nous retrace les grandes lignes de ce communiqué.
Je suis préoccupé par les conclusions de la Cour selon lesquelles les événements de Kilwa étaient les résultats accidentels des combats en dépit de la présence au procès de témoins oculaires substantiels et de preuves matérielles indiquant que de sérieuses violations des droits humains avaient été délibérément commises. C'est en ces termes que Mme Louise Arbour a réagi au verdict du procès de Kilwa rendu par la Cour militaire de Katanga en fin juin. Elle a fait savoir par ailleurs sa satisfaction pour le fait qu'une instance d'appel aura l'occasion d'examiner à nouveau pour ce verdict. Elle demande à cette cour d'examiner avec toute objectivité toutes les preuves afin d'aboutir aux conclusions appropriées que requièrent la justice et les droits des victimes. Regrettant que des civils soient jugés par une juridiction militaire, la haut-commissaire demande au Parlement congolais d'adopter la loi pour la mise en application du statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale. Ceci donnerait aux cours civils, selon elle, une juridiction claire pour les crimes internationaux. Elle rappelle aux autorités congolaises les engagements de lutte contre l'impunité lui fait lors de sa dernière visite en RDC au mois de mai.
Voilà, je rappelle pour nos auditeurs qu'en octobre 2004, un groupe avait pris le contrôle de Kilwa et lors de la reprise par les forces armées de la RDC de cette ville, des exactions avaient été commises et dénoncées par certaines ONG qui avaient parlé de 100 morts. Et justement, c'est dans ce procès qu'il n'y a eu aucun fait constaté, il n'y a eu, d'après la cour militaire du Katanga, aucun fait qui prouve que réellement il y a eu des massacres et tout ce qui avait été accusé dans ce procès de Kilwa ont été acquittés. Mais ceux qui ont été condamnés l'ont été pour les tueries qu'il y a eu à Pweto, toujours dans le Katanga. Donc c'est ce que dénonce au fait Mme Louise Zambou, au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Voilà, je reviens à vous. Adrien Van Damme, vous êtes journaliste de Radio-Télé Groupe L'Avenir. Votre opinion par rapport à ce procès?
Bon, je crois que là, se pose de nouveau ce problème de savoir qui doit être jugé par qui. Et je crois aussi que, le problème des juridictions d'exception avait été, on a demandé à ce qu'on puisse les arrêter une fois pour toutes, afin que nous ayons des juridictions normales au civil, tout comme les juridictions militaires. Donc, il y a ça. Mais bon, maintenant, le problème tel que ça a été posé, est-ce que ce n'est pas ça qui, au départ, a peut-être faussé le tout? Disons que, bon, on est parti de ce groupe de 10 personnes qui allaient peut-être renverser le pouvoir public, ou en tout cas menacer les institutions établies. Donc, c'est pour cela qu'on est parti de cette présomption pour pouvoir les juger par une juridiction militaire. Mais je crois sincèrement que si on peut aller en appel, il faut le faire, et que pour une fois, non seulement que ça soit une juridiction de statut civil, mais surtout que les avocats de la partie civile puissent avoir accès au procès, parce que si vous essayez aussi de voir, ils n'ont pas, les avocats n'ont pas pu se déplacer ni à Pweto ni à Kilwa, ce qui fait que bon, ils n'ont pas pu défendre leur client comme il fallait. Donc je crois que l'appel, si l'appel est intérimé, et donc il faudra que ça soit une juridiction civile ou normale, et puis que les avocats puissent réellement faire leur travail.
Voilà, je me tourne également vers Emmanuel Makila. Comment vous interprétez cette décision de la haute cour militaire du Katanga, dans la mesure où il y a eu des gens qui ont témoigné, d'ailleurs évidemment que les antennes de Radio Capi, un parent qui a dit qu'il a perdu deux de ses enfants, mais la cour dit qu'il n'y a pas de preuves de massacre, comment vous interprétez cela?
En tout cas, moi je commence d'abord à regretter que Louise Arbour commence à se plaindre maintenant, alors que quand elle est venue à Kinshasa, le procès était en cours. Le procès a commencé au mois de décembre 2006. Donc elle savait que c'était une juridiction qui n'était pas appropriée, qui jugeait les civils dans cette affaire des massacres. Normalement, moi je pense que c'était à ce moment qu'elle devrait donner des ordres, ou pas des ordres, mais donner des conseils qu'on puisse revoir le procès avant d'arriver ici.
Mais ce n'est pas quand même que quelque part aussi, comme l'a dit Adrien Banda, il y a la responsabilité des avocats des victimes qui ne se sont pas rendus à Kilwa justement pour défendre également les victimes. Ce qui fait que les victimes se sont retrouvées en face d'autres avocats, mais qui plaidaient en faveur des accusés.
En fait, ce problème, je vais le soulever. Parce qu'il y a ceci, il y a une réaction internationale. Et j'ai suivi, par exemple, il y a une ONG qu'on appelle le KDMT, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui s'insurge contre ce procès, et dans lequel on trouve trois points qui sont vraiment catastrophiques pour un procès soi-disant équitable. Il y a d'abord le premier point. La cour dit qu'il n'y a pas eu de crime de guerre. C'est grave. c'était des crimes de guerre. Les gens, il y a eu
les ONG ont parlé d'exactions, d'exécutions sommaires.
C'est pas les ONG qui ont dit ça, c'était des témoins qui étaient là. Là, le chef du village de, il y a un village qui est à côté, a vu qu'on a jeté des cadavres dans des fosses.
C'est vu. Et le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme dit également qu'il y a des témoins, des oculaires.
Oui, des témoins ont vu. Il y a un parent qui dit qu'il a perdu deux enfants. Et dans ce village, dans le village dont je parle de la chef ici, il y a eu peut-être deux personnes qui ont disparu. Il y a ce premier point. Il y a eu des exactions. Il y a eu une répression. Par rapport au volume, au nombre de personnes, c'était des aventuriers qui voulaient profiter du fait qu'il y avait un mouvement des
donc je voulais dire que la réaction était disproportionnée
disproportionnée parce qu'il y a eu plus de 100 morts et ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le droit des victimes. Les avocats.
Rapidement, s'il vous plaît.
Oui, les avocats n'avaient pas suffisamment de moyens pour se déplacer, pour aller voir, poser des questions, et leurs paroles, c'est comme s'ils n'étaient pas considérés. Et à la fin, maintenant, on dit non, l'État congolais ne reconnaît pas toutes les victimes, étant donné qu'il n'y a pas eu de victimes. Et le tout dernier point, c'est l'autre, c'est ONG. Le déplacement des avocats devrait être assuré par la Cour. Parce qu'il y a eu comme un déplacement de Lubumbashi à Pweto et de Pweto à Kilwa. Tout ça, ça devrait être pris en charge par le...
Voilà, on vous a compris. Oui. On va également à Chikapa, Sosten, Pierre Kambinji. Vous êtes directeur des informations de Radio Zénith de Chikapa au Kasai Occidental. Votre point de vue par rapport à cela?
Bien, je suis suggéré d'abord par la réaction de Mme Lizarbo. Si je ne partage pas les mêmes points de vue avec les confrères qui sont intervenus avant moi, dans la mesure où je ne sais pas si la conviction du juge en droit peut être emportée par les déclarations ou les protestations du ONG international soit-elle.
C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits des hommes, ce n'est pas une ONG.
Oui, les Nations Unies, c'est une organisation qui se situe au niveau international. Là, j'ai comme impression que vous devez mettre la justice de notre pays sous pression du fait que une structure des Nations Unies a réagi de cette façon, donc vous voudrez diriger la décision du juge. La question que je poserai facilement à Mme Lizarbo, c'est de savoir la conviction des juges peut-elle être apportée par un témoignage qui lui-même n'est pas témoignage en soi. Je n'ai plus de valeur. Il y a en matière de guerre ce qu'on appelle les victimes collatérales. Aujourd'hui, ce pays, on connaît la situation de Kanyola, on connaît la situation de Wamungu. Qui est cette société militaire qui a pris le courage d'aller déloger les vétérans, les rassas, qui chaque jour tue les Congolais? Mais qui était une rade marge, elle tue le courage de descendre et qui lui trouve une victime collatérale. Moi, je crois, la reconnaissance de la nation, c'est que dans ce projet, on doit avoir même une attitude de toutes les circonstances atteignantes par l'endroit de cette société militaire. Alors qu'aujourd'hui, qu'on dise que la justice n'a pas été bien rendue, je peux être d'accord. C'est pas entendu que c'est pas d'une discipline de temps de bien qu'on dirait 1 plus 1 égale 2 et tout le monde serait d'accord. On a quand même obtenu la cour d'aide du militaire.
Mais mais c'est quand même assez bizarre que les ONG aient dénoncé une centaine de morts à Kilwa à l'issue de la reprise de cette ville par les FARDC et qu'on ne condamne personne pour cette centaine de personnes décédées à la suite de la reprise de Kilwa par les FARDC.
Les ONG ont dénoncé, c'est vrai. Est-ce que les dénonciations des ONG en droit suffisent à apporter la condition du juge? C'est là la grande question. Si le juge a reculé, bien sûr, la dénonciation des ONG, est-ce que c'est le juge qui a retrouvé? Je rappelle que le juge serait sous une pression d'une ONG internationale qui, éventuellement, obtiendrait une crédibilité parce que, suite à sa pression, on a condamné les gens à Kilwa. Je n'ai plus sur le thème de toutes ces victimes qu'il y a eu à Kilwa. Mais en matière de guerre, on devrait retenir que c'est la tête, les victimes collatérales. Adamaloum, on a fait ce travail, il y a eu ce qu'il y a eu, débat qu'il y en a eu, les anciens morts,
on vous
a fait ce. Voilà. La force, c'est que Kilo a été, la localité a été reprise et aujourd'hui, elle est sous l'autorité du gouvernement central. Moi, je me dis que nous avons la déclaration là, c'est comme si on était dans le temps avec le commandant qui constitue la commune des militaires et que nous, on juge les gens, finalement, où est-ce que vous avez montré tout avec les gens de l'élection.
Voilà, on vous a compris, Adrien Vanda, vous partagez le même point de vue, il y a quand même eu des morts, il y a des gens qui ont témoigné, certains habitants de Kilo, ce qu'on dit également non satisfaits par le verdict. Parce qu'ils ont perdu aussi des proches. On n'est condamné personne, alors qu'il y a eu des morts, d'après les habitants qui ont témoigné sur les antennes de Radio Capi. C'est quand même assez bizarre.
Bon, notre ami Sosten, évidemment, parle des victimes collatérales. Je ne voudrais pas dire que peut-être que ça n'existe pas, mais s'il y a des témoins qui sont en train de dire que c'était des exactions vis-à-vis des personnes, des civils qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, et je crois aussi que les éléments établissés et descendus sur le terrain pouvaient quand même vérifier si les gens qui étaient en face étaient armés ou pas, est-ce que c'était réellement, ils faisaient partie de cette bande de 10 ou pas. Je crois quand même qu'à ce moment-là, parler des victimes collatérales, c'est quand même assez grand. Enfin, bon, pour moi, l'essentiel est que si on peut de nouveau ouvrir l'instruction et tenir compte des témoignages des gens qui ont vécu. Par exemple, ce papa qui a dit que j'ai perdu deux enfants de quel âge à peu près, etc. etc. Est-ce que ces gens-là étaient parmi ceux qui voulaient faire la rébellion à Kilo? Donc voilà, il y a ça aussi.
Les avocats des victimes ont d'ailleurs dit qu'ils feraient appel. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce dossier, mais malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous sommes obligés de passer à notre troisième sujet cette semaine. Les travailleurs des magasins appartenant à des expatriés ici à Kinshasa ont marché et réclamé l'application par leurs employeurs de la décision du ministre du Travail sur leur temps de travail. Ils exigent d'avoir un repos de 30 minutes à 12 heures, mais aussi de terminer le travail à 16 heures de lundi à vendredi et à 13 heures le samedi. On va d'abord écouter un travailleur qui réclame l'application effective de cette mesure par leurs employeurs. Nous l'écoutons au micro de notre confrère Blaise Chindani.
La FEC qui représente les employeurs, soi-disant, ils ont décrit même les noms de l'hôtel de ville dans les nouveaux communiqués. Et le ministre du Travail, signé par Ange Moutier, il nous dit qu'à 12h, il n'y a pas repos. Et le samedi, le magasin s'ouvre à 10h et ça se ferme à 15h. Nous ne voulons pas ça. C'est pour ça que nous revendiquons cela. Et nous revendiquons aussi le protocole d'accord qu'on a signé avec le ministère du Travail, avec la FEC, avec la délégation des travailleurs en 2005. Nous voulons l'application de ce protocole-là. La revendication du salaire, surtout la base et les conditions du travail. Ces communiqués précisent les temps comme suit. Dès 8h, le travail commence et ça se ferme à 12h. De 12h à 12h30, c'est le repos. Et là, on reprend à 12h30 pour fermer à 16h10. Du lundi au vendredi, ça dit chaque jour. Les samedis, de 8h à 13h, comme précisait l'ancien communiqué.
De son côté, la ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Marie-Ange Loukiana, confirme la mise en application sans faille du protocole d'accord signé entre son ministère et les employeurs. Elle annonce en outre la mise en place d'une commission qui se penchera prochainement sur les contrats des travailleurs. Marie-Ange Loukiana est au micro de Babel Pongo.
Le travail va de 8 à 16 heures de lundi à vendredi avec une pause de 30 minutes. De 12 à 12h30, tous les magasins doivent être fermés pour la pause. Le samedi, le travail ira de 8 à 13 heures parce que le gouverneur a prévu des travaux communautaires les après-midi. Nous mettons en place des délégations mixtes qui comprendront aussi des élus de Kinshasa pour contrôler les conditions de travail. Les délégations vont premièrement examiner les contrats de travail. Il faut qu'on ne fasse signer de contrat de travail. Deuxièmement, nous demandons au gouverneur de nous accorder un terrain pour qu'on vous construise des toilettes dignes de ce nom. Troisièmement, il faudra revoir vos conditions salariales. Vos salaires doivent être réduits à la hausse. Il faut qu'on revalorise le SMIC, car pour l'heure, le SMIC n'est pas bien affiché.
Emmanuel Lomakila, je me tourne vers vous. Quelle est votre lecture par rapport à ces événements à Kinshasa, qui ont eu lieu à Kinshasa? Dans la mesure où on a l'impression qu'il y a eu finalement deux communiqués, un communiqué du ministre et puis un autre qui dit que réellement il y a une pause de 12h à 12h30 et il y a, semble-t-il, un autre communiqué qui est sorti disant que non, ce n'est pas obligatoire de donner une pause de 12h30 à leurs employés et qu'ils pouvaient le faire par rotation pour que les magasins magasins ne puissent pas fermer. Donc, comment vous interprétez cela?
En fait, le problème, c'est d'abord la surprise générale. Quand on dit qu'il y avait une décision qui a été prise, et deux ou trois jours après, on arrête la décision, on veut. C'est-à-dire, les patrons, les Westaf, les Indo-Pakistanais et les Libanais avaient toujours en tête le même
esprit. Mais il n'y a pas aussi des Congolais qui ont des magasins qui doivent être aussi soumis, parce qu'on ne peut pas mettre en exergue seulement des expatriés, mais il y a aussi des Congolais qui ont des magasins.
Justement, là je ne conviens pas, il y a des Congolais, mais l'ensemble de tous ces patrons pensaient que c'était toujours le même système où ils avaient des parrains dans l'armée, des généraux, des officiers, les hauts gradés dans l'administration publique, et qui devait les soutenir. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit non, cette décision va porter un manque à gagner à leurs affaires, et ils ont voulu continuer avec l'ancien système. Mais les syndicalistes ont dit oui, il y a manque à gagner, mais il y a aussi les droits. Qu'est-ce que les gens gagnent vraiment?
Il n'y a-t-il pas moyen de trouver une juste mesure?
Non.
Que les uns et les autres se retrouvent.
Non, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Le système de repos à midi, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date des années et des années. On a trouvé que l'homme doit se reposer pour bien travailler. L'homme doit avoir des limites, 8 heures de travail. Par exemple, vous vous rendez compte que dans certains pays, on s'est battu pour avoir 35 heures de travail par semaine. Ça signifie que les heures de travail ne peuvent pas ruiner la vie d'une personne à cause des salaires. Dire qu'ici le salaire est vraiment modique.
Voilà, je me tourne d'abord, avant d'aller à Chikapa, je me tourne d'abord vers Adrien Vanda. Vous êtes journaliste de la radio-télé groupe L'Avenir qui émet ici à Kinshasa. Vous avez suivi ces dossiers puisque vous êtes à Kinshasa. Comment vous, à votre niveau, vous interprétez ces remous parmi les travailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un juste milieu? Est-ce que les revendications des travailleurs sont valables? Parce qu'on apprend aussi que quand il n'y avait pas de pause, certains travailleurs n'avaient même pas le droit d'aller se soulager à l'extérieur. Ils devaient le faire dans des sachets, à l'intérieur du magasin.
Bon, écoute, je crois qu'il ne faudra peut-être pas qu'on revienne sur la genèse de cette affaire, mais ce qu'il faut dire, c'est que, bon, vous l'avez dit, probablement il y a eu deux communiqués contradictoires, parce que c'est quand même pas normal que le ministre ait décidé une chose et puis 2-3-4 jours après les patrons des différents magasins boutiques disent voilà, vos autorités nous ont autorisé à faire ceci ou cela. Non, je crois que c'est pas comme ça que ça devait se passer. De toute façon, repos ou pas, rotation ou pas, moi je crois que ça, ce sont des choses que les patrons devaient en discuter avec leurs employés, ou bien s'il y avait le système de convention collective interprofessionnelle des magasins, etc., ils devaient en discuter et trouver un modus vivendi, pas aller auprès de l'autorité pour venir avec une décision taper sur la tête des gens. Donc là, je crois que la réaction des employés n'a été que normale. Mais non, vous êtes en train de vous l'avez dit aussi. Bon, les conditions du travail, vous parlez d'aller se soulager, d'aller peut-être manger quelque chose, etc. Je crois que 8 heures du temps, on ne peut pas rester comme ça en train de travailler comme une machine pendant 8 heures de d'affilée. Non, c'est pas possible. Il faut que quelque part on s'arrête. Pour le temps de prendre un repos, fumer une cigarette pour les fumeurs, manger quelque chose, se soulager, se distraire, etc. Et après revenir et travailler pendant 8 heures. Est-ce que avant que cette mesure ne soit prise, est-ce que les gens travaillaient 8 heures? Ben, vous n'aviez qu'à faire un tour en ville pour constater. Et alors, c'est ce que mon ami, mon confrère Matila vient aussi de nous dire, que je viens de dire ici, chaque fois qu'il y a un changement, quelque part, quand on veut mettre un peu d'ordre, c'est vrai qu'il y a, des hésitations, etc. Il faut mettre ça sur ce compte-là, mais je crois que les expatriés qui veulent bien travailler ici n'ont qu'à se conformer à ce que prévoit la législation.
Nous allons nous rendre maintenant à Chikapa, où nous avons en ligne Tosten Pierre Kambinji, qui est directeur des informations de Radio Zénith de Chikapa au Kasaï occidental. Mais on constate aussi des abus ici à Kinshasa. On a parlé de certains agents qui vont vraiment contrôler, mais il y a mon concept aussi un certain excès de zèle. On refuse même à ce que les employeurs, le patron restent dans leur magasin pour faire peut-être le compte à 16 heures lorsqu'il faut fermer. Et ce qui pose des problèmes également d'approvisionnement, quand est-ce qu'ils doivent approvisionner leur magasin si c'est né après 16 heures. Comment vous, à Chicapa, vous voyez les choses, puisque là-bas aussi, il y a beaucoup de magasins, j'imagine.
Bon, Claude, vous savez, c'est quand on a la célébrité d'être peut-être une république dans la république, c'est-à-dire ici nous avons le niveau national, soit le national au niveau de ce que nous disons, mais dans la pratique, c'est une loi qui s'applique à qui ça fait ailleurs, c'est quand on a une république dans la république, le numéro 7. Mais ici, nous sommes encore intéressés. Les travailleurs continuent leur carrière, il n'y a pas de pause, le travail se termine parfois à 18 heures, parce qu'il y a des dépositaires qui viennent de localités environnantes qu'il faut absolument provisionner pour que ce soit des rallonges, tout ça, face à une population à 98% dans un chômage, il faut vite trouver la conclusion, on est toujours dans la mesure dans ce cas.
Donc, vous voulez nous dire
il y a un second de l'homme en général qu'on devait toucher à la fin du mois. Mais à côté de ce...
Excusez-moi, Sotène. Donc, par rapport aux réclamations des travailleurs de Kinshasa, à Chicap, on trouve que c'est anormal.
Pas anormal, mais les travailleurs de Chicap, solidaires avec ceux de Kinshasa, au niveau psychologique, se disent bien, ils ont poussé pour nous permettre aussi de respirer. Maintenant, les travailleurs ne peuvent pas bouger dans la mesure où... le parapluie, on a vu tout à l'heure chez Emmanuel qui disait le parapluie, c'est au bout d'une bouteille de vin, d'une bouteille de bosco, de whisky bosse, qu'une autorité est capable de laisser passer une basure commise à l'encontre des travailleurs.
Voilà.
Mais la vie personnelle, je pense que c'est une mesure qui rentre dans le cadre de la refondation de l'État. Normalement, si notre État est en train de refonder, on devrait commencer par respecter ce principe. Et le ministre ne devait pas transiger. Je crois vraiment que.
Rapidement, on est à la fin.
Je soutiens le ministre dans cette démarche.
Merci. On vous a compris. Emmanuel Makila, votre dernier mot, vous êtes rédacteur en chef du journal Le Révélateur, Paris Saint-Cyr Kinshasa, en 30 secondes.
En tout cas, ce que je peux demander aux autorités et aux travailleurs, de même qu'à leurs patrons, c'est qu'il y ait respect de la loi et respect de la personne humaine. Il y a des contrats ici, des travailleurs qui, les journaliers, ils doivent travailler avec un nom et au bout de 6 mois, on lui demande de changer de nom afin qu'il puisse toujours continuer à travailler, tout ça pour essayer de priver un peu le ministère du Travail. Il faudra que les autorités veillent sur l'ensemble de tout ça, de ces codes, et que les patrons ou staff, et non parce qu'ils
pakistanais congolais.
Et congolais font pour essayer de détourner un peu, de contourner un peu la loi.
Voilà, on va terminer avec vous, Adrien Vandamme, le journaliste Radio-Télé Groupe L'Avenir.
Je crois qu'au-delà de ce que Emmanuel vient de dire, il faudrait aussi que les différents patrons de ces maisons de commerce puissent savoir qu'ils ont en face d'eux d'autres hommes, d'autres humains, et que en tant que tel, pour la bonne marche de l'entreprise, ils doivent tenir compte de ces gens-là.
Mais comment trouver un juste milieu pour que les uns et les autres ne perdent pas, le patron s'il ne voulait pas perdre?
Non, Sosten vient de le dire. Quand il y a quelque chose, au lieu de s'asseoir autour d'une table, vous courez derrière le parapluie. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. La preuve est que, bon, ils ont cru qu'on pouvait changer les dispositions prises par les ministres. Le lendemain, les gens étaient dans la rue. Donc, qu'ils s'assoient autour d'une table avec les gens avec qui ils travaillent, ce sont des collaborateurs, et trouvent la commune mesure, mais surtout qu'ils sachent aussi, en tant qu'hommes, que ces gens-là ont besoin du repos, ils ont besoin d'aller se soulager, ils ont besoin de travailler dans des conditions assez salubres. Parce que si vous faites un tour dans des magasins, j'ai l'habitude d'y aller, je vous jure que des fois, vous arrachez les joints.
Donc, il faudrait bien dire que cette mesure concerne aussi bien les patrons congolais que les expatriés. Voilà, il n'y a pas que les expatriés. Voilà, c'est la fin de cette tribune de la presse qui a été réalisée par Kéline Kouté. Guy Manzango était à la mise en onde. Merci à toute l'équipe de Dialogue en Congolais qui l'a préparée. Merci à nos confrères Sosten antenne Pierre Kambinji qui intervenait de Chicapa, qui est directeur des informations de Radio Zénith de Chicapa au Cato Occidental, Emmanuel Makila, rédacteur en chef du journal Le Révélateur du Pierre Kinshasa, et Adrien Banda, journaliste de Radio Télé Groupe L'Avenir. Merci, bon week-end, restez branchés sur le programme de Radio Okapi, la radio de la paix. I'm not going to be able to do that.